clore la journée, nous accueillons Madame Christiane Olivier. À vous, Madame.
Bonsoir à tous. Alors, j'ai comme fonction d'établir pour vous qu'est-ce que c'est la fonction du père, ou qu'est-ce que c'est le rôle idéal d'un homme qui a engendré un enfant. Depuis des siècles, le père est passé par mons et par vous, puisque vous savez que au départ, le père grec avait le droit de mettre son enfant de côté, de l'abandonner, d'en faire n'importe quoi. Le père romain avait le droit d'adopter l'enfant qu'on lui présentait, il le reconnaissait comme sien ou ne le reconnaissait pas. Et à partir du moment où il l'avait reconnu, il avait le devoir de l'éduquer comme son fils, même si c'était le fils d'une esclave. C'est ça qui était remarquable. Le désir du père fonctionnait comme étant créateur de l'existence de l'enfant. Non seulement au niveau des gènes, car en général, c'était un enfant adultérin, mais il reconnaissait qu'il avait le droit de vivre comme le pater familias et avec lui. C'était ça qui était particulier. Ensuite, au Moyen-Âge, l'effacement des pères a été à peu près complet. Il a été renvoyé, le père a été renvoyé, par le christianisme d'ailleurs, à une image judéo-chrétienne d'un... Pardon. Il a été renvoyé à une image de Dieu qui était créateur et qui était le père universel de tout le monde, et les pères n'étaient jamais que la suite de Dieu ou les représentants de Dieu. Et on a mis très longtemps, puisque on a suivi tout le Moyen-Âge, toute la royauté, avec cette idée que le père trimballait avec lui la loi sociale, la loi familiale, également la loi religieuse, qui elle avait été définie par les tests de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. Et le père représentait ça, et le roi était encore plus haut, il était le père du père. Et le jour où nous avons mis le roi par terre, nous avons tout simplement mis par terre le fait d'avoir un père, et pendant beaucoup de temps, nous n'avons eu comme père que la République. Les pères, à partir du moment ou de la loi après la Révolution, ont été mis dans un endroit où ils n'avaient pratiquement pas de droit, puisqu'on pouvait les déchoir. C'est la première fois qu'on est arrivé à faire des lois disant cet homme est indigne d'être père, il boit, ou il tape, ou il cogne, ou il n'est pas normal, et on peut le déchoir de ses droits de père. Et on peut donner l'enfant uniquement à la mère. Et la mère est devenue à cette époque-là intouchable, elle était parfaite. Elle gardait les enfants, elle ne faisait jamais de sottises, elle ne faisait jamais d'inceste, elle ne faisait jamais de choses déplacées. La mère était parfaite, on n'est pas très loin déjà de Winnicott. Car après cette mère qui a gardé les enfants pendant deux guerres par obligation, puisque le père n'était pas là, elle était donc seule, mais c'était sans danger, puisqu'on avait déclaré que les pères, s'ils étaient mauvais, on les mettrait de côté, ils étaient soumis à jugement, qu'ils soient là, pas là, ils faisaient leur devoir de patriote, personne ne disait rien. Les mères ont élevé les enfants. Elles ont eu des enfants très attachés à elles, et des enfants qui, quand ils sont devenus grands, étaient forcément des phallocrates, car je pense que personne ici n'ignore qu'un homme élevé seulement par une femme n'a qu'un moyen de devenir ce que n'est pas la femme, c'est-à-dire son contraire, et il devient ainsi un homme contraire à la femme. Donc il veut la dominer, il veut diriger à sa place, il veut faire d'elle son esclave, et il veut dire ici, moi je dirige tout, je connais tout, je sais tout, car je suis un homme, et toi tu ne sais rien. Faisant ça, c'est ce qui a précédé le féminisme, faisant ça, il est en train de dire, je suis en train d'exécuter ma mère, qui m'a dominé toute mon enfance, alors que j'étais un homme, que j'avais un pénis et qu'elle n'en avait pas. Elle a pris le droit et le culot et l'audace de régner sur moi, un homme qui suis si différent et si tellement plus fort qu'elle, car les hommes sont plus forts et plus grands et plus armés que les femmes. Et l'homme se défendait en réglant son compte à la femme et à la mère. Et il laissait toujours la position maternelle, c'est-à-dire tu t'occuperas de la nourriture, du bien-être de l'enfant, de son éducation jusqu'à 7-8 ans. Hein, parce que l'éducation, moi, je vais intervenir avec ma loi d'homme. Je vais lui dire quelles sont les choses essentielles à respecter dans la société. C'est moi, le citoyen. Toi, tu es la gardienne de l'âtre, du feu, de la maison et des enfants. Et pendant toute la première moitié du XXe siècle, nous avons eu des familles où les enfants étaient presque toujours dans les mains de mère. Et nous avions, comme époux et comme mari, d'affreux phallocrates qui pensaient faire leur devoir en mettant la femme en position inférieure et soumise. Pour eux, ils ne faisaient que leur devoir, et c'était une charge, et c'était lourd. C'était ça, d'être le père, c'était finalement de laisser la femme dans une position subalterne où elle s'occupait des enfants. Là-dessus, Freud est arrivé. Et Freud a découvert une chose extrêmement importante, puisqu'il a découvert l'inconscient, c'est-à-dire cette chose qui se met en route à notre insu dès que nous existons. La seule question est, quand est-ce que nous existons ? Est-ce que nous existons à la fin du cinquième mois de grossesse, au début du sixième ? C'est encore une question, est-ce que l'inconscient commence dans le ventre de la mère ? La réponse est déjà donnée en partie, oui, l'inconscient commence dans le ventre de la mère. L'enfant entend tous les bruits de la famille, il entend les disputes ou les mots d'amour entre les parents, il se rend compte si la famille est ok ou ne l'est pas, il vit là-dedans, et le jour où il sortira du ventre de la mère, il n'y aura qu'une différence d'écoute, parce que tout d'un coup, le rideau qu'il avait entre lui et l'univers va s'effacer, il va entendre en énorme, amplifié, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que, dans quel milieu il est tombé avec des gens qui veulent quoi, qui disent quoi. Mais il en avait déjà un aperçu. Donc à partir de Freud, on a découvert l'importance du début de la vie. C'est pourquoi à l'heure actuelle on a moult revues, moult articles, beaucoup trop peut-être, décrits autour de la première enfance. Ce qui fait que les mamans deviennent des gens qui marchent comme si elles étaient conditionnées à être de bonnes mères. Et comme si elles pensaient qu'elles étaient responsables de cet inconscient, elles le sont en partie. Mais elles ne le sont qu'en partie. Pourquoi ? Parce que des gens comme moi, par exemple, se sont rendus compte que l'enfant, dès ses premières heures, dès ses premiers jours, est tout à fait capable d'intégrer tout ce qu'il passe dans son champ, c'est-à-dire dans sa vision, proche de son écoute, proche de son odorat. Les gens qui s'approchent d'un bébé, dans les 3 premiers mois, dans les 6 premiers mois, se font intégrer automatiquement, qui que ce soit. Que ce soit le docteur s'il vient souvent parce que l'enfant est souvent malade, que ce soit la nurse, que ce soit la grand-mère, que ce soit surtout le père. Il va être intégré, et contrairement à ce qu'a dit Winnicott, la bulle du bébé, la première bulle n'est pas faite que de maman et de bébé. Elle est faite de maman, de papa et de bébé. Si papa veut bien y aller, car si papa ne veut pas toucher le bébé, s'il ne veut pas s'en approcher, s'il dit « Oh, mais moi je rentre trop tard le soir à 9h, je ne vais pas réveiller cet enfant pour prendre dans les bras, non mais tu vas pas bien, hein. Je verrai ça le week-end, et ça, puis le week-end il a d'autres choses à faire, il va au golf, et ça, il ne regarde toujours pas l'enfant, il lui dit bonjour comme ça, ça va bien, hein, il est beau, il est mignon mon fils, puis il s'en va, bon. » L'important pour être intégré, c'est pas tellement de passer, de poser sa main avec condescendance sur la tête d'un enfant, c'est de le prendre et c'est de lui faire ce que j'appelle les actes de vie. Le changer parce qu'il est sale, le nettoyer, lui mettre une autre couche, rebichoter le tout, remettre tout ce qui va bien, prendre l'enfant dans les bras, lui parler, rire avec lui, etc. C'est également lui donner à manger quand il a faim, lui donner le biberon si on est là, c'est très important. C'est le prendre dans les bras, lui faire voir dans la rue, il ne voit rien à travers les rideaux, mais il voit que ça circule, il voit que c'est pas comme dans la pièce. Et ça, les papas, les mamans le font souvent pour distraire l'enfant. Mais ce n'est ni un rôle de femme, ni un rôle d'homme. C'est le rôle de quelqu'un qui veut faire partie de l'inconscient. Moi, je dois dire qu'ayant été grand-mère, chaque fois que j'ai voulu qu'un enfant soit vraiment mon petit-fils ou ma petite-fille, je me suis attachée à venir de 800 km pour passer 2 jours et faire des actes de vie avec ce bébé naissant. Et ça a tellement bien marché que sur 5 petits-enfants, il y en a 3 qui sont attachés à moi de façon indélébile. Je vois dans leurs yeux, quand il me dit bonjour, que je fais partie d'eux. Si je disparaissais, ça serait incroyable, ça serait un trou énorme. Parce que je suis rentrée dans leur vie dès les premiers jours. Je les ai gardés souvent. Ma fille est sortie travaillant, me le confiant pour l'après-midi. Ils m'ont reconnue. Dans un autre cas, je n'ai pas pu être présente pour d'autres raisons. Ben, ces enfants-là, je suis leur grand-mère officielle, j'en ai le nom. Mais quand ils me disent bonjour, ils n'ont pas le même lien. Bien sûr qu'ils sont contents de voir bientôt, mais bien sûr qu'ils vont me faire voir des dessins, des tas de machins pour me dire je t'ai fait un cadeau, etc. Mais la confiance n'est pas la même. La confiance ne sera jamais la même. Si les grands-parents et les pères veulent rentrer dans la bulle, il faut faire l'effort de s'approcher du corps de l'enfant, il faut être respiré, il faut être humé, il faut être entendu et il faut savoir que le seul fait de tenir l'enfant, c'est déjà un acte. C'est un acte d'attachement. Et l'enfant le fait tout de suite. Et je suis très surprise, moi, de voir des parents qui ont tellement peur de tenser leurs enfants, tellement peur de les gronder, car à l'heure actuelle, on souffre du manque d'éducation sévère de la part des parents. Et les parents me répondent toujours, mais je ne peux pas, madame, je ne peux pas faire quelque chose de défensif ou de cruel avec mon enfant. J'ai tellement peur qu'il ne m'aime pas. Mais je dis, comment ce que vous dites des sottises pareilles? Vous n'avez jamais rien lu sur la psychanalyse. Vous ne savez pas que vos enfants vous aiment depuis le premier jour. Même si vous êtes alcoolique, même si vous le rossez, même si vous rossez votre femme, votre enfant vous aime de façon inénarrable. Il ne peut pas vous jeter. Même si vous êtes criminel, il va vous protéger. Il va dire, mais mon papa n'est pas si méchant que ça. Il y avait un livre qui avait paru récemment, ou il y a 3-4 ans, mon papa n'est pas le salaud qu'on dit. Bon, très bien. Le père était un criminel, mais l'enfant ne pouvait pas l'accepter. L'enfant disait, c'est mon papa. Et moi, je l'aime. Donc, il est positif pour moi. Donc, il est bon. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas se détacher de ses parents, c'est bien le bébé. Et c'est pourquoi c'est curieux de voir que les parents rechignent à prendre une position négative et à dire, bon, je donne une tape. Ça fait 3 fois que je te dis de ne pas faire ça. Tu recommences toujours. Moi, je n'ai pas d'autre système que de te signaler que ça, tu as débordé. Moi, je déborde aussi. Hein. Il y en a marre. Ah, des gens me disent, mais vous avez une éducation tout à fait sadique, etc. Vous savez bien que la fessée est interdite. Je dis, la fessée, ce que vous voudrez, ça m'est égal. Mais donner un signal que maintenant, c'est dépassé et qu'il ne peut pas aller plus loin. Parce que si vous lui laissez faire cet acte, il va le reporter plusieurs fois dans sa vie. Et vous allez le retrouver à 12, 13 ans, faisant absolument n'importe quoi, avec n'importe qui, avec les grandes personnes, avec les jeunes filles de son âge, couchant avec elles en disant qu'elles sont très contentes et que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les met en garde à vue pour une chose pareille, si naturelle et si simple. Nathalie était très contente. Bon, ce sont des enfants qui n'ont pas appris à respecter l'adulte, parce que l'adulte ne sait pas faire respecter. Et l'adulte, je reviens à mon point de départ, pouvait, avec tous les moyens, se faire respecter, puisqu'il était d'abord aimé. Moi, j'ai le droit de gronder tous mes petits-enfants, puisqu'ils m'aiment. Quand ils viennent chez moi, ils prennent des leçons qu'ils ne prennent jamais ailleurs, parce que je suis psychanalyste, et parce que je vois des choses qu'ils n'en voient pas, et je me permets de faire des observations et de faire des punitions que les mères ne feraient pas. Et quand les enfants viennent de chez moi, les parents me disent « ils sont différents ». Mais qu'est-ce que tu as fait à Nicolas? Je dis, j'ai rien fait, j'ai vécu avec lui. Et puis, quand il a fait une bêtise, j'ai signalé. Et puis voilà, je n'ai jamais tensé, jamais rossé, j'ai pas eu besoin. Mais il y a une fois où ta fille n'a pas eu de repas, elle n'a pas voulu manger, elle est allée au lit sans manger. Et comme elle avait très faim le soir et que je ne voulais pas qu'elle soit torturée par la faim dans son lit et qu'elle ne dorme pas, je lui ai dit, je vais te faire le repas du prisonnier. Très intéressée, ma petite fille, qu'est-ce que c'est ça? Et bien, je lui ai dit, c'est 3 biscottes avec un verre d'eau. Et elle était enchantée, je lui ai donné 3 biscottes, elle n'aime pas les biscottes, il n'y en a pas chez elle, elle ne mange jamais. Bon, j'ai 3 biscottes, c'est très bon, hein, c'est très bon, tu en as d'autres? J'ai dit, oui, j'en ai d'autres, je lui ai donné 5 biscottes, je crois, et à boire, et elle n'avait plus faim, et tout allait bien. Et puis on a repris la situation comme on devait la reprendre, c'est-à-dire qu'on s'est remise en amitié, j'ai raconté une histoire de quelqu'un qui avait fait des bêtises et qui était puni, et puis qui à la fin se réconciliait, et c'est ainsi que l'enfant peut se rendormir. C'est vous dire que quand on sait qu'on est aimé de façon totale, on peut agir de façon relative avec des punitions relatives. Et ce n'est pas parce qu'on a donné une claque qu'on est un parent méchant, sadique. Et tu vois, tous les parents dérivent parce qu'ils ne savent pas cette loi essentielle. Mais j'ai été présent dans l'enfance de cet enfant, la première année, il n'a fait qu'une chose, s'attacher à moi. Et moi, je me suis attachée à lui. Ça, c'est une parole que les pères ne peuvent pas dire dans leur totalité.
Car beaucoup de pères n'ont fait aucun effort. Et on continue à dire, moi je suis cadre, je suis chef d'entreprise, tu te débrouilles, parce que moi tu comprends, je ne peux pas passer des heures et des heures ici, moi j'ai mon boulot, et j'ai des réunions le soir, et je ne peux pas revenir, et je te fais confiance. Alors, le père a existé de façon déléguée, comme Lacan l'avait bien dit d'ailleurs, il avait dit, le père n'existera que dans la mesure où la mère le transmet. Ce qui est une chose affreusement dangereuse, car si, après l'accouchement, la mère devient trop mère, comme ça arrive à beaucoup de femmes, elle ne va pas avoir besoin que le père aime l'enfant. C'est elle qui aime l'enfant. Et elle va repousser le père loin, elle ne va pas du tout le présenter, elle ne va pas du tout parler de lui. Quand il arrivera, ça suffira toujours. Et elle ne va rien dire, et le père ne sera pas introduit. Donc non seulement il n'aura pas fait d'attachement de 0 à 8 mois, mais là quand il y a 8 mois, elle va présenter l'enfant. Elle peut toujours le présenter. Il n'y a pas d'attachement, il y a le nom du père. Et tout le monde sait à quel point le nom du père est une notion intellectuelle, froide et peu humaine. Peut-être que M. Lacan n'avait pas eu une très bonne relation avec son père. C'est de ça qu'on peut, d'une chose, on peut tirer l'autre. Mais c'est quand même très grave de soumettre le géniteur à un aléa de la femme qui a un bébé et dont la psychologie change et dont la libido se tourne autrement. Le père risque de payer les pots cassés. S'il ne veut pas payer les pots cassés, s'il veut être père dès le début, s'il a eu le désir d'être père et de voir son enfant, c'est à lui de faire les pas des 3 et des 6 premiers mois. Donc, il faut qu'il ait un congé. Quand moi j'ai demandé un congé, c'était un scandale. J'ai mis 4, 5 ans, 6 ans à parler des pères, et bien enfin, j'ai vu qu'ils avaient un congé. Il est trop court, bien sûr. Mais symboliquement, quand même, dans les premiers jours, je me dis, l'enfant vit dans une bulle à 3. Il y a la mère qui est fatiguée, il y a le père qui ne l'aime pas, qui s'occupe beaucoup de l'enfant. S'il ne donne pas à téter parce que c'est la mère, il prend l'enfant, il le porte à la mère. Ensuite, il prend l'enfant, il le change, il peut faire beaucoup de choses, il est à égalité avec la mère. Après 9 mois d'handicap pour le père, il récupère sa valeur d'homme désirant, aimant cet enfant. Mais c'est à sa liberté de le faire. Personne ne peut le forcer. Et vous voyez des pères qui se laissent démunir de l'enfant, d'un enfant de 6 mois, la mère dit, je ne m'entends plus avec toi, il y en a marre, c'est trop tendu, je croyais que cet enfant allait nous rapprocher. Il ne nous rapproche absolument pas, moi. Non, c'est le divorce, hein. C'est pas la peine qu'on continue. Elle part avec l'enfant. Il y a des pères qui vont se défendre. Ils vont hurler comme si on leur enlève un bras ou une jambe. Ce sont ceux qui ont désiré l'enfant, qui lui ont donné leur nom, etc., et qui n'entendent pas être privés de la suite de leur histoire. C'était la suite de leur histoire. Et la femme dit, je suis la mère, donc je suis la toute puissante, j'emmène le fruit de ta vie, la suite, je m'en fous complètement, je suis la mère, je suis essentielle. Et il y a eu beaucoup de psychanalystes, jusqu'à Cyrulnik qui a changé il y a 6 ans environ, jusque-là. Cyrulnik lui-même donnait toujours raison à la mère et disait, en cas de difficulté, c'est la mère qu'il faut laisser. C'est elle qui l'a portée, c'est donc elle que l'enfant connaît le mieux, c'est donc elle la grande responsable, et le père aura un droit de visite, ma foi, ça suffira. Et moi, je me plains beaucoup que le père, au départ, même s'il a fait son travail d'habituation et d'attachement avec le congé qu'il a obtenu, ne peut pas suivre la présence de la mère. La mère reste 3 mois et plus si elle veut. Si elle est fatiguée ou si elle a quelques maladies, on va lui accorder tout de suite un congé médical supplémentaire. Elle va pouvoir rester 5 ou 6 mois auprès de l'enfant. Et l'enfant va s'habituer à la préséance de cette femme. Il la connaît beaucoup mieux que les autres. Et si vous le mettez en nourrice à 3 mois, alors là, changement, il va avoir 2 femmes préséantes, la mère, pour le matin et pour le soir, et pour la journée, la nounou. Et quelques mères sont très effarées, très jalouses, parce qu'elles amènent leur enfant à une tierce femme, en disant, mon Dieu, c'est terrible ce que j'ai fait un enfant et je l'abandonne à 3 mois à cette femme qui n'avait pas le désir d'enfant, c'est moi qui trimballe le désir d'enfant et c'est moi qui abandonne l'enfant. Et c'est pire encore quand elles reviennent le soir et qu'elles veulent récupérer l'enfant, qui délibérément, quand la mère arrive, elle fait « Eh alors, Étienne, tu vois ta maman ?» Et ça, l'enfant fait comme ça, hein, il se tourne dans le cou de la nounou. Pourquoi ? Dans une journée, il a changé de mère. avec les oreilles, avec les yeux, avec l'odeur, il a changé de mère. Et la mère doit faire une habituation pendant environ 4 minutes. Elle fait le singe, le diable. Puis tout d'un coup, il reconnaît quelque chose qu'il connaît. Puis, peu à peu, il la regarde. Et peu à peu, enfin, il tend les bras, il va vers elle. Et la mère dit, mais enfin, tu ne me reconnais pas. Tu ne reconnais pas ta maman. Eh bien non, il ne reconnaît pas sa maman. C'est dire le risque qu'on prend quand on met une nounou avec un enfant, il faut le savoir, cet enfant aura deux attachements. Il ne faut ni pester ni râler. Parce que quand il est avec sa nounou, il fait des actes positifs. Il ne faut pas dire la nounou, elle ne vaut rien, je la déteste, elle est sale, elle sent mauvais. Non, l'enfant a besoin d'une image positive car toute la journée, il vit avec cette image positive. Et quand vous rentrez le soir, vous ne pouvez rien effacer. L'enfant, toute la première année, est un ordinateur où on n'a pas mis beaucoup de programmes. Hein. Il y a tous les modèles, mais on n'a pas mis beaucoup de programmes. Et tout programme neuf qui arrive, d'une personne qui garde l'enfant, s'intègre. Tout de suite, nous chargeons dans l'ordinateur de l'enfant la nounou, nous chargeons les changements de personnalité à la crèche, nous chargeons tout ça dans son ordinateur. Et puis, il va faire toute sa vie avec ça. Donc, il faut savoir que le père ne peut pas être absent de la première année comme on l'a cru. Car on a cru très longtemps, avec les Lacanien et les autres psychanalystes, et Winnicott d'ailleurs, que le père ne servait qu'à couper l'enfant de la mère à 8 mois. Et moi, je disais, ça, c'est ton papa. Et il allait se dire, mais j'ai un papa, j'ai pas qu'une maman. Mais c'est 4 fois trop tard. C'est terminé. Mais il dira qu'il a un papa. C'est intelligent et c'est philosophique. Mais il ne sentira jamais qu'il est attaché à quelqu'un qui a une voix douce, féminine, qui a une odeur comme ça, et à l'autre. Car de 0 à 9 mois, on ne nomme pas ses parents. On les a à l'intérieur de soi, on ne sait pas s'ils s'appellent papa, maman, on ne sait pas s'ils ont un sexe masculin, féminin. On sait que l'un et l'autre sont différents. Quand papa s'approche, c'est l'autre de maman. Quand maman s'approche, c'est l'autre de papa. Et on fait la différence. Et on navigue entre deux odeurs, deux façons de porter. Le portage des hommes est très différent, vous le savez bien. Et l'enfant n'est pas du tout contre. Il faut voir le rassurement des bébés quand un homme grand, costaud, prend son bébé, le met là et le soutient avec ses mains entre les jambes. L'enfant s'appuie, il se laisse aller comme il ne fait jamais avec la maman. Il sent un homme grand, fort, il sent des bras qui le tiennent, il se laisse aller, il est complètement bien. Et quelquefois, quand vous voyez un père, vraiment père, qui tient son enfant de quelques jours, vous vous dites, c'est vraiment là qu'il fallait qu'il soit. Hein? Il est bien, cet enfant. Et parce que le père a envie d'assurer la vie de l'enfant, de le tenir, qu'il ne tombe pas, qu'il soit bien, qu'il soit rassuré. L'enfant reçoit tout ça. Il emmagasine. Il est bien avec son père. C'est une évidence. Et on se demande pourquoi on a reculé si longtemps à mettre les pères dans la vie des enfants. Mais les pères ne sont pas des pervers. Mais les pères ne sont pas tous des violeurs. Et surtout, quand on a aimé un enfant petit et qu'on l'a protégé, on n'a pas tellement tendance, quand il a 9 ou 10 ans, à l'attaquer et à le violer. On a gardé un sentiment protecteur, un sentiment de père, un sentiment paternel. Alors que les autres qui n'ont jamais vu leur enfant, peut-être à 8-9 ans, vont dire « Mais elle m'intéresse beaucoup, Natacha, elle est très mignonne. » Alors ils commencent à la toucher, à s'en occuper, etc. Comme ils s'entendent mal avec leur femme, pourquoi pas dériver. Le père qui s'est occupé de l'enfant a un attachement paternel, tout à fait caractéristique. Il reconnaît la voix de l'enfant au fond du berceau et il dit « Il a faim, il a froid. » A dit, il faut qu'on y aille, il doit être mouillé. Il comprend tous les pleurs de l'enfant, il est tout près de l'enfant, aussi bien que la mère. Ils sont donc deux très proches dans la bulle, plus tous les autres, les frères, les sœurs, les tantes, les grands-parents. Tous ces gens-là habitent avec l'enfant et l'enfant est un être social. Il ne faut pas imaginer que le bébé, c'est quelqu'un qui vit dans une bulle avec une femme. Puis d'un coup, la bulle éclate, il découvre le père, les autres, il faut qu'il s'adapte. Ce qui donnait les bébés sauvages qu'on avait à 8 mois. À lui, on disait, c'est drôle, il est sauvage. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il se cache, il pleure. Nos bébés ne le font plus. Nos bébés sont habitués à passer de main en main, d'odeur en odeur. Ils savent, 8 mois, vous ne voyez pas 8 mois. 8 mois, ce que vous voyez, et qui est très important, c'est que vos enfants disent papa, parce que c'est plus facile que ma maman. Ils font papa, ils ne savent même pas qu'ils disent que papa. Mais c'est papa qui arrive et qui dit, ah, papa, c'est moi. Papa, c'est moi. Il le dit 2-3 fois, l'enfant entend, il dit, tiens, il a une drôle de voix, on dirait qu'il est content. Alors, le lendemain, il va recommencer, papa. Et c'est toujours le même qui répond. Et c'est la maman qui dit, papa, il est là. il entend, il ne sait pas ce que ça veut dire, il est là, mais il entend la voix des parents qui est tout à fait intrusive, qui est concluante, qui est persuadante. Et il reconnaît son papa au bout de, même pas un mois, avec ce truc, papa, papa. Et puis après, maman dit, mais moi je m'appelle maman, maman. Elle joue au même jeu, ça marche très bien, elle se fait reconnaître. Ils se font reconnaître tous les deux, on ne passe plus par la main des femmes pour reconnaître le père. C'est ça qui est très nouveau dans la fonction paternelle. La fonction paternelle, on la prend ou on ne la prend pas. Mais si on la prend, on la prend au premier jour. Et si on l'a prise, on n'abandonne jamais l'enfant. Car si on abandonne l'enfant et qu'on va vivre en Suisse parce qu'on a divorcé et que la femme est à Rennes, on fait un trou comme ça dans l'âme de l'enfant. Il a un deuil intérieur énorme. Et vous pouvez lui présenter tous les hommes que vous voulez, tous les Jules de la mère. Ils sont adorables, ils sont gentils. Ils aiment l'enfant de leur petite amie. Pourquoi ils n'aimeraient pas? Ils essayent d'être gentils avec l'enfant. Ils n'ont pas l'odeur, n'ont pas le pas, n'ont pas la parole. Et l'enfant se dit, mais où il est, où il est, où il est, où il est quoi? Il n'a pas les mots pour le dire, mais il a les images à l'intérieur et les images sont défaillantes car il ne revoit pas son père. Ce qui est grave, et pourquoi moi je tiens tellement à ce que la position du père change, parce que par le divorce, les femmes ont toute facilité à semer le père. Un tiers des femmes sont divorcées. La conclusion des tribunaux, qui ne connaît pas assez la psychanalyse, a été de mettre l'enfant du côté de la mère, parce qu'il est tout petit. Quelquefois, les gens divorcent, ils ont un enfant de 6 mois, 8 mois, 1 an, vous êtes tranquille, il va chez la mère. L'envoyer chez le père, c'est une condamnation énorme pour la mère. Donc personne n'enverra un petit bébé chez le père, chez la mère tout de suite. Et cet enfant va avoir une vie marquée de « je vis ». Avec une femme, si c'est un petit garçon, il va être obligé de conclure, elle est différente de moi. Le jour où il va demander qu'est-ce que j'ai là, la mère va dire, tu as un truc que moi j'ai pas, parce que moi je suis pas un homme. Ah oui, et mais il bouge mon truc. Ben oui, ton truc il bouge parce que si, parce que là, elle va expliquer à la sexualité ce qui est le rôle du père. Elle va le prendre et elle va expliquer à l'enfant. Et l'enfant il va écouter, puis il va dire, toi tu l'as ça? Et la mère dit, non, moi j'ai pas ça, moi j'ai autre chose, moi j'ai un petit trou pour faire les bébés. Tu me le fais voir? Problème. La mère dit, qu'est-ce que je fais? Je lui fais voir, je lui fais pas voir. Alors là, entre la pudeur, est-ce qu'on doit faire voir, est-ce qu'on ne doit pas faire voir? Je pense qu'il est suffisant de se faire voir une fois sortant de la douche ou une fois dans le bain à un enfant de 2 ans et demi à peu près pour qu'il repère notre identité d'homme ou de femme. Et après, c'est pas la peine de continuer. Il est inutile d'aller dans le bain avec son enfant, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Pour qu'il s'amuse avec le petit pigeon du papa, mais c'est ridicule, il s'est déplacé, et ça ne doit pas se faire. Et si l'enfant veut le faire, le père répond, mais moi je prends mon bain tranquille, après de là je vais m'amuser avec toi, et puis c'est tout. Mais non, mais je veux toucher ça là. Mais ça, je ne veux pas que tu le touches. Moi je ne touche pas le tien que pour te changer. Et le père, faisant ça, donne un interdit à quoi? Eh bien à la perversion de notre homme, qui plus tard s'approchera de l'enfant, et lui demandera de faire des tas de choses. Et l'enfant sera fixé à l'interdiction du père et se souviendra que le père a dit « c'est à moi, moi j'en fais ce que je veux, et toi tu as le tien et tu en fais ce que tu veux ». Moi je vois souvent des enfants qui sont autour de moi, j'ai vu une fois ce que j'appelle une petite fille gardée. Quelqu'un s'est approché d'elle et lui a fait une caresse, je ne sais pas, peut-être autour de sa robe qui faisait ça, elle dit « oh, ben, y a de jolis volants et puis il y a des belles petites jambes dessous ». Elle se retourne, elle le regarde, elle avait 3 ans. Elle dit « t'as pas le droit ». Ah ben j'ai dit « celle-là, elle est éduquée hein ». Et alors, il dit, pourquoi j'ai pas le droit? Parce que t'as pas le droit de regarder là, c'est qu'à moi. C'est la seule défense que nous puissions donner à nos enfants, car nos enfants ne peuvent pas distinguer les pervers des non-pervers, parce qu'ils ont les yeux bleus ou les yeux bruns ou des lunettes ou pas. Dis-moi quand monsieur est très gentil, qu'on n'a pas dit que cette chose était très personnelle. L'enfant va se s'approcher, on va lui dire une jolie robe, puis des jolis genoux, puis c'est très joli au-dessus, et puis il continue. Et l'enfant est affolé, mais... il n'ose pas se défendre, il ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal. Alors que l'enfant à qui on a dit tu en fais ce que tu en veux, même tu t'en amuses si tu veux, ça ne me regarde pas, sauf si tu le fais au salon, ça c'est une interdiction sociale et publique. L'enfant qui sait que c'est à lui, quand il va sentir que ça se rapproche du sexe, va dire non, là c'est pas le droit. Il est gardé. Mais tout le monde ne sait pas ça et tout le monde ne veut pas parler sexualité à un enfant de 3 ans. Cependant, c'est des enfants de 3 ans, de 4 ans qui sont enlevés, violés, étouffés dans les bois. Et on en voit tout le temps. Et c'est troublant de se dire, mais ces enfants, premièrement, qu'est-ce qu'ils faisaient de galoper tout seul à 7 heures ou la nuit tombée, sans un adulte à côté pour les protéger, puisqu'il y a tellement de gens donc, qui ont une sexualité dérivante, faute d'en avoir une normale. Et deuxièmement, pourquoi cet enfant n'a pas pu se défendre? Pourquoi on a entendu des cris? Il y avait un fermier à côté, il n'a rien entendu. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a rien dit. Il était affolé, il avait une position à adopter, il ne savait vraiment pas laquelle. Et la plupart des femmes qui sont des femmes de mon âge, quand on parle avec elles, elles ont toujours eu dans leur enfance un événement venant d'un adulte qui a fait quelque chose de déplacé. Pas franchement un viol, pas franchement quelque chose de grossier, mais quelque chose qui était de l'ordre de « tu me plais bien, moi je suis un homme et j'aime bien ton corps de petite fille ». Et chaque femme qui a maintenant 50 et plus dit « je ne savais pas quoi faire, ma mère ne m'avait jamais rien dit ». Moi, je ne ferai pas ça à mes petits-enfants, je les préviendrai. Hein. Parce qu'elle sent qu'à ce moment-là, on aurait pu lui faire n'importe quoi. Elle était en position de se dire, mais je le dis à maman, je vais avoir l'air de quoi? Et c'était une culpabilité énorme qui jaillissait, car l'enfant, n'ayant jamais été touché là par un adulte, la première caresse n'était pas forcément négative. Et l'enfant se reprochait d'avoir du plaisir là, puisqu'on lui avait rien dit et qu'il savait rien. Donc il faut que nos enfants sachent qu'ils ont du plaisir à cet endroit, que tout le monde a du plaisir. Et le papa, comme la maman, doit expliquer comment ça marche et à quoi ça sert. Alors il y a des âges pour ça. De 0 à 2 ans, vous n'avez pas à parler de ces choses. C'est à 2 ans que votre enfant va vous demander comment ça marche les poules, les canards, les chats, les chiens. Et à la fin, il va dire « et moi ?» Et vous allez être tenu, si c'est le papa qui est là, de dire ben, « ça marche comme ça, avec mon pénis, j'ai donné des graines à Marie-Pierre, et Marie-Pierre avait une petite poche, et elle a reçu des graines, et il y en a une qui a poussé, c'était toi. » Et l'enfant comprend extrêmement bien, c'est surprenant de voir comme jeune, il comprend tout, sauf le désir, et ça tombe très bien, parce qu'on ne voulait pas lui parler de désir, parce que n'étant pas adolescent et n'ayant pas les hormones correctes, il n'a pas de désir. Il veut s'amuser avec l'autre parce qu'il veut voir comment il est. C'est ainsi que vous retrouvez les petites filles et les petits garçons de 6 et 7 ans dans une chambre, ils sont 6 ou 7, ils rigolent comme des fous, les filles ont tombé la culotte, comme on dit chez moi, et tout le monde regarde et ça, ils ne font pas des choses inimaginables. Ils regardent qu'est-ce que c'est l'anatomie de l'autre qui n'est pas comme eux. Alors, il n'est pas question de rentrer dans cette chambre et de faire un scandale. Il faut rentrer dans la chambre et dire, mais je vois que vous vous amusez beaucoup ici. Et je vois que les filles sont des filles et que les garçons sont des garçons. Et puis au bout d'un moment, vous dites, oh ben maintenant ça fait un moment que ça dure, je vais vous proposer à goûter n'importe quoi. Vous les emmenez ailleurs pour que ça ne dure pas une éternité. Mais ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et derrière la porte, ils continuent à rigoler dans votre dos parce que ça les a fait énormément rire. Et qu'est-ce qui les a fait rire? La différence. Voir quelqu'un qui n'est pas comme soi, ils ont été saisis d'angoisse. Et vous savez très bien que quand on est angoissé et qu'on est en public, on rit. Et on fait de l'humour même, quelquefois. Et bien, nos enfants, à ce moment-là, se mettent à rire parce qu'ils sont gênés, ils ne savent pas quoi faire. Et comme ils sont en public, ils sont plusieurs, ils rigolent. Et bien, ça veut dire qu'ils sont surpris, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas que Élodie, qui est de sa culotte, ait une fente. Ils n'avaient jamais vu de fente de fille, ils sont très surpris. Et tu as une fente? Ben oui, dit la fille, oui, j'ai une fente, elle trouve ça tout à fait naturel. Et la fille est encore plus intéressée par le truc du garçon. Tout ça peut se passer très bien, dans la mesure où les parents sont devant et où le père mène son rôle, premièrement, son rôle d'attachement, donc son enfant a confiance en lui. S'il lui arrive quelque chose à l'enfant, il va aller aussi bien vers le père que vers la mère. Il ne va pas aller forcément vers la mère comme on faisait autrefois. Il va aller vers son père. Moi, j'ai un petit-fils, quand l'avion descend comme ça, il croit que lui, il va aller planter du nez, il hurle et il appelle son papa, avec qui il a une relation serrée. Ben, ça veut dire que le papa est protecteur, que le papa, c'est le salut de l'enfant, et en difficulté, il appelle son père. Au lieu d'appeler sa mère, et ça fait rigoler tout l'avion, qui entend « papa, papa ». Et c'est très rare de voir un enfant qui appelle son père. Il a une très bonne relation avec le corps de son père. Il monte sur les genoux, il est en sécurité. J'ai un gendre qui a tenu ses enfants, qui les a portés, et les enfants d'une totale confiance dans ce père. Alors ces enfants-là ont deux adultes. Et le jour où on arrive au divorce, car tout ça marche ensemble. Le jour où on arrive au divorce, l'enfant, on lui dit, les deux adultes qui t'aimaient vont continuer à t'aimer, mais chacun dans leur maison, parce qu'ils ne font que se disputer. Et l'enfant est troublé, il dit, mais alors vous allez me laisser? Mais non, on ne va pas te laisser, tu vas venir vivre avec l'un ou avec l'autre, et tu verras papa tous les 15 jours, tu verras maman tous les 15 jours. On t'aime tous les deux, tu sais. L'enfant ne peut croire ça que s'il aime également le père et la mère. Sinon, il se met tout de suite du côté de la mère. Et si on lui dit avec qui tu veux aller, il répond avec maman. Bien sûr, si maman a eu, je ne sais pas moi, 14 heures par jour avec l'enfant, le père n'en a eu que deux, il y a un déséquilibre énorme. C'est pourquoi moi je souhaite que les parents aient un congé de 1 an, un congé mi-temps pour monsieur et pour madame, pour qu'ils puissent intervenir à tour de rôle auprès de l'enfant et pour que personne ne perde son job sur le plan social. Car si nous avons fait des crèches, ce n'était pas pour le bonheur de nos enfants, ils n'y sont pas très heureux à 3 mois, surtout ils y seraient mieux à 1 an simplement. C'était pour libérer les travailleuses que nous étions. Et les autres pays nous envient cette chance. Les Allemands disent, qu'est-ce que vous avez de la chance? C'est pour ça que vous faites des enfants en France, parce qu'on vous soulage, on vous aide. Hein. Vous avez tout de suite des crèches, au bout de 3 mois, vous êtes débarrassés, vous repartez à votre boulot. Mais nous, on n'a absolument pas ça. Les crèches sont rares, extraordinairement chères. Alors, faire un enfant, hein, on fait un, mais on ne fait pas toujours deux. Hein. Et c'est vrai que nous sommes gagnants au point de vue natalité, parce que les femmes ont été très aidées. Mais les enfants sont moyennement aidés avec ces histoires de crèches qu'il faudrait réviser. Moi, je crois qu'on les met en crèche beaucoup trop tôt. Et je crois que la rupture de 3 mois est très, très dure à faire pour un enfant, de vivre pratiquement 10 heures sans voir et sans sentir l'odeur des parents, que ce soit lui ou que ce soit elle. Alors cet enfant doit passer la matinée, il doit déjeuner, il fait l'assiette, il se réveille, on lui donne le biberon, ça va bien, et à partir de là, il se met à hurler. Et il hurle la mort, car il hurle après un manque qui n'a pas de nom, pas de forme, pas d'image. À 3 mois, on a des manques, c'est-à-dire c'est pas comme d'habitude, mais on ne sait pas ce qui manque. C'est pourquoi si on les mettait simplement à 9 mois en crèche, ça serait plus facile. L'enfant saurait que papa est parti et papa va revenir. Et la puéricultrice le dirait. Elle dirait, mais papa, il n'est pas là, tu pleures pas, papa, il va revenir. Et l'enfant entendrait papa, il saurait qui c'est papa et il saurait qui c'est maman. Pour l'instant, ça n'est pas toujours comme ça. On dit à 3 mois, un enfant, maman va revenir. Pendant le premier mois, ça reste extrêmement dur. Et si Nathalie part dans la rue en pleurant, on comprend très bien pourquoi elle pleure. Elle a fait un enfant, et elle est en train d'abandonner à d'autres femmes. Ça lui paraît scandaleux. Elle dit, pourtant, je ne peux pas faire autrement. C'est la loi. Bon. Alors, moi, je conseille aux mères, quand je les vois, mais écoutez, essayez de vous faire prolonger un peu. Ça ne peut être que bon que vous traîniez un peu à la maison avec cet enfant qui apprend à vous connaître et qui apprendra à faire le deuil de vous. Quand vous partez et que votre enfant pleure, c'est pas négatif, c'est extrêmement positif. Ça veut dire, je te connais, tu t'en vas, je suis chagrin, je pleure, je veux pas que tu t'en vas. Je veux vivre avec toi. Ça veut dire donc qu'il vous connaît très très bien. S'il ne pleure pas, moi j'ai toujours dit que si je volais un enfant, je m'approcherais d'un berceau d'un enfant de 3, 4 mois. Je le vole, pas de bruit, pas d'histoire. Il s'en fout complètement. Il va avec tout le monde, il ne reconnaît pas très bien les gens, je dis 4 mots très gentils, je le prends dans ma cape, je m'en vais, j'ai volé un enfant. Ça peut très bien se faire. Si je veux le faire à 9 mois, ça va être déjà très différent. Il va se mettre à hurler parce que je ne suis pas maman, et il connaît maman. Hein. Je vais avoir beaucoup plus de difficultés. Et dans la soirée, n'en parlons pas. Donc les enfants de 9 mois sont des enfants identifiés dans leur famille avec leurs parents. Et ils sont déjà très fixé à la famille. C'est pourquoi le divorce demande certaines lois que je ne développerai pas ici pour respecter l'individualité de cet enfant qu'on a travaillé à former pour son bien et sa sécurité et qu'on déchire bruyamment par un divorce si on divorce avant que l'enfant n'ait à peu près 2 ans. C'est-à-dire qu'il n'est passé le temps de l'attachement, c'est la première année. Vous faites tout pour vous attacher, vous faites tout pour qu'il n'ait pas de manque, vous lui donnez une tétine, vous lui donnez des doudous, vous lui mettez des coussins autour du berceau pour qu'il mette la tête comme dans l'utérus où il s'appuyait sur la membrane de la mère. Vous faites tout pour que le monde n'ait pas changé, bien que son monde a totalement changé. Et la deuxième année, tout d'un coup, vous devenez un parent qui interdit. Votre enfant veut prendre la lampe, vous dites non. Et vous verrez que le premier non, et vous le savez d'ailleurs, le premier non est extrêmement surprenant. L'enfant vous regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il remet la main pour voir. Et vous refaites exactement la même chose. L'enfant ne comprend pas. Il ne comprend pas que c'est interdicteur. Et la troisième fois, s'il prend le truc et le fait tomber, alors là, vous levez la voix. Mais depuis, au bout de 2-3 mois, vous ne faites pas que lever la voix parce que votre enfant a compris que ça n'avait aucune incidence sur lui et qu'on continuera à prendre la lampe, elle va tomber, elle va casser. Alors s'il est comme ça, si c'est un enfant qui n'écoute pas les 3 sommations du parent, il va bien falloir qu'à la 3e sommation, vous dites, moi si tu continues, moi je te donne une tape. Et vous lui donnez une tape si vous avez promis de la donner. Et l'enfant n'est ni vexé ni humilié, il a respecté le contrat. Vous lui avez dit au bout de 3 moi je te tape. Mais tu fais comme tu veux, tu choisis. Et l'enfant choisit de faire sa bêtise. Il a le plaisir de faire la bêtise. Et après, il a le plaisir d'avoir une tape. Mais sachez qu'un enfant qui est prévenu n'a pas très mal. Car quand vous avez dit « je vais donner une tape », il s'est raidi sur le plan nerveux, prêt à subir l'assaut. Donc il a beaucoup moins mal. Donc c'est très important de corriger nos enfants, mais de les prévenir. Car symboliquement, ils ont reçu une punition, mais dans le corps, ils n'ont pas été sadisés, ça n'a pas été gigantesque comme souffrance. Surtout quand on tape sur des couches, cette fameuse fessée qui tombe du découche, moi elle me fait rire, parce qu'elle fait beaucoup de bruit et pas beaucoup de mal. Mais elle signale qu'il se passe quelque chose d'important, parce que ça fait beaucoup de bruit, l'éclat sur un plastique, ça paye ça. Alors, cette fonction donc, des deux parents est très importante pour être conservée. Quoi qu'il arrive, au cours du divorce, il faut que le père géniteur soit distingué de tous les autres hommes qui vont traverser la vie de cette femme. Quelquefois, maintenant, on fait deux couples, trois couples. On a trois pères, mais on a son papa. Et puis, on a papa Gilbert, papa Yves, et papy François, et papy René. Enfin, il y a plein d'hommes qui vont traverser. Mais l'enfant dit, ça, c'est papa. Il n'a qu'un papa. Et il a plein de papas d'adoption qui sont charmants, qui vont faire de la séduction, de tout. Il faut que le papa reste au premier rang en disant je ne risque rien, moi. Je l'ai adopté, je l'ai attaché la première année. Je ne risque rien. L'autre, il est arrivé après, c'est cuit pour lui. Il l'aimera bien, c'est sûr, mais jamais il me détrônera. Il faut qu'un père puisse savoir ça. Autrement, il est inquiet. Pendant 15 jours, il est inquiet. Et quand il voit son fils arriver le 15e jour, il lui fait une fête digne de... je ne sais pas quoi. Il y a des ballons partout, il y a un gâteau au chocolat, dans le lit on a mis un doudou tout neuf, un nouveau nounours, et les parents qui voient leurs enfants trop rarement leur font plus que de l'amour parental, ils leur font de la séduction pour être sûr de plaire, pour être sûr de plaire au premier rang, ils en font un maximum. Mais c'est une erreur, car ce n'est pas ça un papa. Un papa, c'est quelqu'un avec qui on vit, tout simplement. Et le père doit continuer sa vie, samedi et dimanche. Il y a Olivier, où il n'y est pas. Mais le père ne doit pas faire une foire énorme, parce que son fils est là. Et ce n'est pas un bon moyen. Ça fait de l'enfant quelqu'un qui se dit, mais je suis tout pour mon père. Alors quand j'arrive, là, il me donnerait tout. Hein. Il me donnerait la voiture à conduire. Hein. C'est incroyable. Et il se dit, mais je règne partout. Déjà, ma maman ne me gronde pas, parce qu'elle est coupable à la maison d'être toute seule et elle ne veut pas que je vois qu'elle est méchante, donc elle n'est jamais méchante. Et quand j'arrive chez mon papa, il est prêt à tout. Il m'adore. Voilà le dire des enfants divorcés. Comment voulez-vous qu'on devienne un citoyen organisé, respectueux de l'autre, respectueux des désirs de l'autre? Si on a vécu ainsi, en triomphateur, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, malgré le divorce, malgré les ruptures, il faut que le père et la mère soient deux êtres spéciaux, individuels, et que l'enfant est intégré dans son ordinateur pour toujours. Peu importe ce qui va arriver après, ça va peut-être pas drôle ou peut-être charmant, j'ignore. Mais il faut que cet enfant puisse raconter son histoire et dire « Moi, j'ai mon papa, il n'est pas là, il travaille ailleurs, je le vois quand je vais aux grandes vacances. » Très bien. Et puis après, j'ai papa Gilbert, il est très gentil. Moi, je vais à la pêche avec lui, il est gentil, il me donne des bonbons. Il raconte ce qu'il veut, ça ne fait rien. Mais il ne faut pas que l'enfant ait de rupture dans son identité. Et là, je touche quelque chose qui va être le dernier point, parce que je pense qu'il est tard. Le dernier point qui appartient au père, c'est l'identité de son fils, parce que la mère va faire de l'identité au féminin, c'est-à-dire de l'homosensualité qui précède la sexualité, avec sa petite fille, elle va lui dire « tu es comme moi, regarde, on est toutes pareilles, tu auras une robe comme ça, je vais t'acheter une robe comme moi, je vais t'acheter un petit sac à main, je vais t'acheter un petit truc pour te farder, les petites filles adorent ça, elles font les mamans, elles s'amusent beaucoup, très bien ». Ça, c'est le passage de la féminité d'une femme à l'autre. Mais qui fera le passage de la masculinité l'un à l'autre si le père ne le fait pas? Et comment le père peut-il le faire s'il n'a pas l'attachement? Et le père fait la première homosensualité de la vie du petit garçon. En ce sens, il est essentiel. Ceux qui n'ont pas eu ça, très souvent, deviennent homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils ont absolument besoin d'être amis avec un homme qui est comme eux et d'éprouver qu'est-ce que c'est de donner la main à quelqu'un qui est pareil. C'est un truc sans méfiance. C'est un truc, c'est tout couru, on peut compter dessus, il est pareil. Et c'est quelque chose d'inénarrable, mais les gens qui n'ont pas eu cette homosensualité au départ, quelquefois se tourne à l'adolescence vers l'homosexualité, que nous considérons plus grave, plus engageante, qui détourne davantage les gens de la famille. C'est un point de vue moral peut-être, mais il est clair que de plus en plus l'homosexualité devient un mode de vie, alors qu'elle pourrait très bien rester accidentelle, un essai, un amusement de l'adolescence, et on retournerait à l'hétéro parce que nous sommes hétéro et homo, comme Platon l'avait dit, et nous ne nous servons que de l'hétéro. Et depuis le début de notre vie, les petites filles n'ont pas d'hétéro avec le père, c'est pourquoi elles rêvent d'un prince charmant inimaginable, elles ne le trouvent jamais. Et les petits garçons ont vécu trop d'hétéro avec la mère, et ils ne trouvent aucune femme digne d'être comparée à la mère. Et vous voyez, un homme de 50 ans qui a eu deux divorces derrière lui, il vous dit tout franchement, ben, moi j'ai eu deux divorces, hein, je ne sais pas, j'ai eu une vie un peu agitée, ça je reconnais. Hein. Oh, moi, alors j'ai une mère hein, de 80 ans, je vais la voir toutes les semaines. Oh, quelle femme! Et quand vous voyez ça chez un homme de 50 ans, vous vous dites, mais cette femme, elle a tué toutes les autres. Personne ne résistait devant elle. C'était impossible d'arriver au niveau où elle est. Ben, évidemment, elle avait recueilli tout l'attachement pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça dépend des lieux et des familles. Et elle était toute puissante. Hein. Si elle disait, ma belle-fille est idiote, terminé. La belle-fille, elle n'avait plus qu'à regarder les murs. Hein. C'était tout à fait terrible, cette femme. Donc, cette femme, ce qui m'étonne beaucoup, mais je pense que c'est tout à fait classique et lacanien, quand les gens m'attaquent en me disant, mais madame, le père, quand même, servait à séparer l'enfant de la mère et la mère de l'enfant. Et je dis, vous ne voyez pas que le père sert finalement, la mère sert elle aussi, ils servent tous à séparer l'Œdipe. Qui se fait forcément. Si vous avez un père seul, veuf, sa femme a eu un cancer jeune, il est seul avec sa fille, ils sont en Œdipe très serré. Il y a de grandes chances que cette fille adore son père, qu'elle ne trouve jamais un mari valable et qu'elle retourne à 40 ans chez son père en disant, écoute, moi j'ai tout loupé avec Eric, avec Jean-Yves, moi, j'ai deux bébés, est-ce que tu veux que je vienne chez toi? Le père dit oui, puis voilà, et on repart comme ça. Mais le père et la mère servent chaque fois d'antidote pour l'Œdipe de l'autre. Et cet Œdipe, il faut qu'on le traverse. Il ne faut pas qu'on l'évite. Il faut qu'on tombe dedans et qu'on ressorte. Et qu'on ressorte avec quoi? Avec l'homosensualité. Nos enfants font l'Œdipe entre 3 et 4 ans. Et à 5 ans, vous les trouvez dans les cours d'école. Les garçons sont avec les garçons, font de l'homosensualité. Les filles avec les filles, elles font de l'homosensualité. Et c'est comme ça que nous nous trouvons à peu près équilibrés entre l'hétéro et l'homo. Et vous voyez que de toute l'histoire que je raconte, le père ne peut pas être exclu. Sinon, mon histoire, elle est fausse. Moi, je sais bien que dans beaucoup de cas, elle est fausse. Et ça me désole beaucoup. Et que puis-je faire, sinon parler à des gens qui savent, ou à des gens qui comprennent, et à des gens qui peuvent parler à d'autres en disant, bah, tu sais, le père, c'est drôlement important. Hein. Tu te figures qu'il n'y a que le fric, qu'il n'y a que ta situation, que cadre supérieur, que dirigeant. Ben, tu sais, hein, si tu laisses Jean-Étienne avec moi, ça va payer. Hein, j'ai compris ça, hein. C'est important que vous sachiez ces choses-là qui sont tout à fait fondamentales et qu'on n'a pas dit du temps de Freud parce que Freud ne les savait pas. Du temps de Winnicott, on ne le savait pas non plus. On donnait toute la primeur, toute la faveur aux mères. C'était le temps des guerres, les hommes étaient absents et les psychanalystes, les plus grands, donnaient la faveur à la mère. Et on ne savait pas toutes ces choses que je vous ai dit et que le père peut porter, peut faire et peut vivre avec un enfant qui a besoin de lui. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si on a le temps de parler. Donc, on a 3 minutes pour faire 2 objections ou 2 assentiments, comme vous voulez.
Oui, j'aurais voulu vous poser une question concernant le père, mais dans l'excès contraire, c'est-à-dire quand le père est là très très présent, qui prend le rôle de la mère, que peut-il se passer?
Il ne prend pas le rôle de la mère. S'il a pris tout le rôle, c'est que la mère est absente et qu'il joue le rôle des deux. C'est la même chose quand une femme est seule. Elle vous répond quand vous dites comment vous faites pour vivre seule avec l'enfant. Elle dit je l'aime tellement que je l'aime autant que pour deux. Ça le fait le père et la mère.
Merci. Bon, pour vous donner l'exemple précis, il s'agit de ma fille qui a eu un bébé qui a des difficultés Et pour des raisons pratiques, c'est le papa qui s'occupe donc de l'enfant et la mère qui est à l'extérieur. Aujourd'hui, l'enfant a 2 ans, est très très proche de son père et la mère se sent un peu à l'écart.
Oui.
Donc, est-ce que c'est normal?
C'est normal, de la façon dont ils vivent. Et comme c'était normal que les enfants donnent la primauté à leur mère il y a 30 ans. C'est celui qui est là le plus souvent qui récolte le plus d'amour. L'amour n'est pas une question de qualité, comme l'a dit Dolto. C'est une question de quantité de temps. Même si vous êtes odieux, si vous êtes tout le temps là, l'enfant se fixe à vous. Il n'y a rien à faire à ça. Hein. Donc si le père a été présent parce que la mère avait un job supérieur et qu'elle tenait à le garder, c'est tout à fait normal que cet enfant préfère le père.
Madame, je voudrais d'abord vous dire que j'ai beaucoup aimé tout ce que vous venez de dire. J'ai eu l'impression d'écouter les paroles du cœur. C'était plein d'amour et je me sens très proche de vous parce que je suis aussi grand-père. Mmh. Et ça me plaît beaucoup, mais je voudrais vous poser une question concernant aujourd'hui la fragilisation du père qui me paraît être une difficulté de notre société, au moins de ces 40 dernières années. Ça a commencé par la pilule, ça a continué par l'avortement. Ensuite, ça a été le chômage qui a fragilisé le père dans sa situation de père au milieu de la famille. Et ensuite, le divorce qui est majoritairement demandé par les femmes. À 80%, ce sont les femmes qui demandent le divorce. C'est bien que les hommes aujourd'hui se sentent, ou les pères, se sentent fragilisés dans le milieu familial. L'autorité est prise. Et il y a une emprise d'autorité, un pouvoir de la mère qui s'est fait par ces dernières années, qui, à juste titre pour un certain nombre de raisons. Mais du coup, le père est aujourd'hui un peu fragilisé. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette assertion.
Mais moi, je pense que je fais tout ce qu'il faut pour que le père soit fortifié. S'il est fragilisé, c'est par une situation de divorce qui atterrit devant des juristes. Et les juristes ne connaissent qu'une loi, ils ne connaissent pas les lois de l'inconscient. Moi, je voudrais qu'on apprenne aux juristes. Je voudrais qu'on leur donne des cours de psychanalyse. Je voudrais qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en passe quand on met un enfant avec une femme pour des années, avec un père qui va être aléatoire. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Apparemment, ça donne beaucoup d'homosexualité. Moi, c'est ma réponse. C'est ce que je vois de notre société. Peut-être ça va changer, peut-être. Moi, je trouve que les pères, ceux qui ont voulu, ont avancé. Quand je vais dans une école à 5 heures, je vois beaucoup de jeunes pères avec des sacs dans le dos et qui emmènent les bébés. Moi, je trouve ça très sympathique. Je me dis, il a son enfant, il s'est détourné de son travail et il est passé par l'école. Et ça, il ne l'aurait jamais fait il y a 20 ans. Et vous voyez beaucoup de pères très vivants qui sont très gentils à l'enfant, ils le mettent sur le truc du vélo. C'est une autre vie. C'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on va en Suède ou au Danemark. On voit des pères vivants, car à 5 heures, ils sont hors du travail et ils sont dans les rues avec leur femme et ils s'amusent avec les bébés. C'est formidable. D'ailleurs, le couple éclate, mais pas pour les mêmes raisons. Les hommes et femmes sont beaucoup plus égaux dans ces pays-là parce que le père peut être père. C'est important.
Oui, moi je voudrais également vous remercier pour votre intervention. Et je voulais savoir qu'est-ce que, justement, lorsque le divorce arrive, qu'est-ce que vous préconisez comme mode de garde? Est-ce que la garde partagée, qui est beaucoup controversée aujourd'hui, serait mieux adaptée pour les enfants lorsque...
La garde partagée ne peut être adoptée que si les parents divorcent comme s'ils s'aimaient. C'est pas souvent. Il faut pouvoir discuter. Et si on ne peut pas, il faut prendre un médiateur qui vous remette en situation de... C'est comme si on s'appréciait comme avant, mais au milieu, on a mis un enfant. Qu'est-ce qu'on fait de bien pour lui? Peu de gens arrivent à ça. Chacun tire sur l'enfant. Et c'est l'histoire de Saül. Chacun tire sur un membre et va éclater l'enfant. Et c'est la mère qui gagne toujours. De par la loi, de par le pays, pas de par son droit. Mais on lui donne... le droit. Monsieur parlait d'avortement. Les femmes ont pris le droit d'avoir leur désir d'utérus rempli ou pas. C'était quand même leur utérus. Mais il fallait qu'elles disent à l'homme avant, je ne veux pas d'enfant. Donc, tu avances couvert ou moi, je prends la pilule. De toute façon, moi, je ne veux pas d'enfant. Et maintenant, l'autre jour, j'ai répondu à un journal qui voulait faire un article. Ces enfants qu'on m'a pris dans le dos de la part d'un homme. Et elle me dit, mais j'ai vu beaucoup d'hommes désespérés parce qu'on leur avait arraché des enfants
en leur faisant faire l'amour de façon inopinée, dans des conditions qui n'étaient pas prévues au contrat. Ça fait un bébé et la fille est partie en disant, mais tu t'en occupes pas, j'en ai rien à foutre, tu le reconnais pas, moi je suis très contente comme ça, tu t'occupes pas d'être père, tu continues ta route. Et les gens se réveillent 5 ans après en disant, mais où il est mon enfant, il était à moi. Quelquefois les pères le cherchent, c'est très cruel ce qu'ils font. Ils essayent de récupérer l'enfant, de le reprendre parce qu'il est à eux. Et cet enfant est habitué à n'avoir pas de père du tout, il a fait un deuil complet, c'est encore pire. Mais c'est très difficile la garde alternée parce que ça demande un certain niveau de, je dirais, de compréhension l'un de l'autre, de pardon de ce qui s'est passé, parce que l'un avait une psychologie comme ça, l'autre l'avait comme ça, et on s'est déçus mutuellement, tout simplement parce qu'on n'était pas pareil. Tout le monde divorce uniquement pour une seule raison. Un homme et une femme ne sont jamais pareils. Et ils ne sont pas pareils. Ils se mettent ensemble pour se comprendre. Évidemment qu'au bout d'un an, 2 ans, ça commence, tu ne me comprends pas. Et l'autre dit non, tu ne m'as jamais compris. Hein, drôle de discussion, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Finalement, ça finit, écoute, puisque c'est si dur entre nous que je ne te comprends pas, hein, on va foutre le camp, chacun dans notre coin, et ça sera beaucoup plus clair. Et c'est comme ça qu'un homme et une femme qui pouvaient s'entendre, s'ils savaient que l'amour n'était pas une histoire linéaire, qu'on faisait ça et ça, car chaque fois qu'on trouvait la différence chez l'autre, on était déçus. On rêvait de symbiose toute notre vie à cause de ce qu'on avait vécu dans le ventre de la mère et qui était parfait. Nous avons cette partie d'ordinateur chargée à mort et qui veut se réaliser une deuxième fois, on vend nos amours. Bon, on conclut des amours, ce qu'on croit être le mieux pour nous. Et puis on découvre quoi ? Eh bien qu'un homme, il ne comprend pas la femme, sa femme. Et la femme ne comprend pas l'homme non plus. Et il se jette cette faute à la figure. Ce n'est pas une faute, c'est une différence à reconnaître. Mais il faut être à un certain niveau pour dire non, et on ne s'est pas convenu, on ne s'est pas du tout aidé, il vaut mieux se séparer. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites pour Yvan ? Et à ce moment-là, si les gens sont là, la garde alternée est très bien. Est très bien, parce que l'enfant voit autant le père que la mère. Il comprend qu'on l'aime, lui, au milieu. C'est rester une stabilité, il n'est pas déchiré en deux. Alors que les enfants, séparés par le divorce, cruellement, toi chez ta mère, tous les 15 jours chez ton père, c'est clair qu'ils ont une espèce de déchirure ici. Quand ils reviennent de chez maman, ils ne disent pas à papa ce qu'ils ont fait à maman. Et quand ils reviennent de chez papa, ils ne disent jamais à la mère qu'est-ce qu'ils ont fait avec le père. Ils trimballent la rupture en eux. C'est terrible de voir avec quelle droiture ils font ça. Pire que les parents. Ils divorcent les enfants avec une droiture, une correction absolue. Mais c'est quand même terrible quand on est un enfant d'être divisé. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, la garde alternée donne l'occasion de ne pas avoir cette rupture énorme, de ne pas la trimballer. De dire, mes parents ne se sont pas entendus, je ne sais pas pourquoi. Mais mon père, je le vois très souvent, ma mère aussi. Hein. Et qui tu préfères ? Oh, je les aime tous les deux. Ça donne un bon résultat, quand on peut la faire.
Voilà, ben, je crois sur ce mot, nous terminons.
Je crois que c'est bon de
terminer. Merci, madame. si vous voulez bien...